des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait, comme sans doute, absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune, 93.fm, et vous écoutez « Des formes utiles, l'art et ses récits ». Mon invité est l'écrivaine québécoise Danielle Fournier pour cette deuxième partie de l'entretien. Dans le premier entretien, nous avons parlé de l'apparition de son dernier récit, « Celle qui ne donne pas son nom », lu des extraits de ce livre, parlé de ses vies au Québec et en France, de son arrivée à l'écriture. Dans ce deuxième entretien, nous allons continuer à faire des lectures, parler de ses autres vies, de la manière dont elle se rencontre et confond dans son écriture, car Danielle Fournier a été aussi directrice littéraire, conférencière, enseignante, mère. Parler de ce qui de l'écriture fait femme, de ce qui est d'être femme et écrire. Parler du langage et de son absence, parler des formes utiles et de la responsabilité. Bonjour Danielle.
Oui, bonjour Fabiola.
À l'été 2004, ton écriture fait l'objet d'une présentation par Annie Leclerc. Comment était cette rencontre? Et ta rencontre avec sa pensée, est-ce qu'elle a influencé la tienne ou comment tu l'as vécu?
Oh, c'était un moment, c'était vraiment un très beau moment parce que j'avais lu évidemment Annie Leclerc hein, comme bon nombre d'entre nous. Donc, j'avais eu beaucoup d'admiration pour son travail. Surtout les premiers livres, là, et le livre qu'elle avait écrit avec Hélène Cixous, parce que j'ai beaucoup d'admiration aussi pour Hélène Cixous. Elle avait écrit avec Hélène Cixous et Madeleine Gagnon, La Jeune Née. C'était à l'instigation de Alain Lanche, qui était alors... directeur de la Maison des écrivains à Paris, qui m'avait dit « On pourrait présenter votre travail. Est-ce que vous aimeriez une auteure qui présenterait votre travail, qui ferait une entrevue avec vous? » Il m'avait proposé Annie Leclerc. Donc, c'était pour moi un honneur. C'était vraiment impensable. J'aurais jamais... Et je suis allée donc, avant la rencontre, on s'est quand même rencontrés quelques fois, Annie Leclerc et moi. C'est curieux parce que... toi aussi, tu as cité Paul Valéry, mais quand Annie Leclerc m'a présenté à la Maison des écrivains, elle a commencé, elle aussi, par une citation de Paul Valéry. Alors, peut-être que vous avez des accointances, ou c'est moi qui ai des accointances avec lui, il faudra me le dire. Et je suis allée chez elle, et j'ai trouvé une femme chaleureuse, humaine, très... Enfin, bon, elle a quand même connu le suicide de son mari. Bref, j'ai senti vraiment humaine et très, très, très ouverte, très à l'écoute. Donc, l'échange a été de cet ordre-là. Pour moi, c'était un moment très, très heureux, puis très... c'était très bien pour moi. J'avais l'impression d'être connue par quelqu'un d'autre. J'avais l'impression d'être connue par quelqu'un que je reconnaissais moi-même, donc... Il y avait comme une... Mais c'est dommage parce qu'elle est morte très peu longtemps après. Et puis, c'est comme si ça avait été une étoile filante dans ma vie. Mais ça a été vraiment une très, très belle étoile filante.
Avant de parler de ton recueil de poèmes et de tes autres vies, j'aimerais revenir brièvement sur ton dernier livre paru en mars de cette année, « Celle qui ne donne pas son nom », paru aux éditions Léméac, sur une des deux citations qui figurent dans ce dernier récit, qui vient du livre « La rose fauve » de l'écrivaine Carole Martinez. « Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés ?» est la citation. Et j'aimerais te demander si c'est une des questions à laquelle tu tentes de répondre avec ce livre.
Si nous sommes écrits par ceux qui nous ont précédés, je pense que tout a déjà été écrit. Que c'est à la fois heureux et malheureux. mais que comme on est en vie maintenant, on vit au présent, enfin dans la mesure du possible, on essaie de vivre au présent, on ne peut pas s'empêcher d'une certaine façon, de vouloir ajouter notre petite pierre à cet immense édifice qu'est la littérature. Donc, oui, je pense que tout a déjà été écrit. Je pense qu'on essaie de réécrire. On essaie de réécrire à la fois le passé et le futur au présent. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens par rapport à cette citation qui m'avait vraiment interpellée parce que, encore une fois, je reviens à ce que je disais précédemment. Quand on va dans une bibliothèque, quand on va dans une librairie, ou dans un salon du livre, bon, et qu'on voit tous ces livres qui ont été déjà écrits, et quand on sait que chacun de ces livres parle de soi, dit quelque chose de soi, eh ben, ça fait déjà pas mal d'écriture, hein? Ça fait déjà pas mal de récits. D'ailleurs, on dit que, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais j'aime bien l'idée que quand on lit zéro livre, on a une seule vie, et quand on lit 1 000 livres, on a 1 000 vies. Donc, c'est intéressant de penser que dans une seule vie, on peut vivre plusieurs vies en même temps. Donc, on peut vivre une vie au 15e siècle, au 18e siècle. Bon, pour les gens qui aiment la science-fiction, un autre siècle. Pour la fin, les gens qui aiment la fantasy, peuvent vivre d'aventure.
Dans une conférence, Le vertige du féminin, que tu as donnée dans plusieurs villes en Espagne en mai 2023, tu as dit, je cite, ce que je ressens intérieurement, dans mon corps, c'est que je ne sais pas ce qu'est d'être femme, être une femme, et encore moins ce qu'est ou serait le féminin, la féminité. Tous les jours, je me demande si je suis une femme, et autant je ne peux répondre, autant je ne suis pas certaine de pouvoir m'imaginer dans un autre corps. Bien sûr, je vois bien mon anatomie, j'en suis consciente, j'ai eu des enfants, mais cela suffit-il? Est-ce que l'écriture te permet d'approfondir cette question, de peut-être mieux vivre avec?
Ben, c'est la question de ma vie, Fabiola. Qu'est-ce que c'est que la féminité? Je ne sais pas ce que c'est. Parfois, j'ai l'impression que... Non, c'est pas vrai. J'ai jamais eu l'impression que je m'en approchais, que j'arrivais à savoir ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'est que la féminité. Je ne sais pas... Donc, je ne saurais pas comment la définir, comme je ne saurais pas comment définir l'identité, parce que je pense que l'identité, comme la féminité ou la masculinité, ce sont des identités floues et fluctuantes. On n'est pas femme à 12 ans, ou on n'est pas femme à 18 ans, ou on n'est pas femme à 40 ans ou 80 ans, de la même manière. Qu'est-ce que c'est que la féminité? C'est pas le corps. Oui, c'est bien sûr le corps. Ce n'est pas que le corps. C'est entre autres choses le corps. On confond aussi féminin et féminité. Féminin dans le sens de la langue, c'est-à-dire masculin, féminin. D'ailleurs, on confond aussi genre, sexe et sexualité, ce qui permet toutes sortes d'avenues un peu troubles, dans le sens que quand on confond genre, sexe et sexualité, on est dans la non-identité, dans le fond. On n'est pas dans la différence, en tout cas. On n'est pas dans la différence, on n'est pas dans l'autre. Donc, est-ce que la féminité amène par définition, apporte par définition le rapport à l'autre? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que la féminité implique la maternité? Peut-être, peut-être pas. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, il y a des femmes qui ont beaucoup d'enfants. Donc, qu'est-ce que c'est que la féminité? Est-ce que c'est le corps? À ce moment-là, on pourrait parler de mascarade, hein? Parce que les drag queens, les drag queens parlent d'elles ou elles, elles s'habillent comme des femmes, et quelque part, elles sont un peu, et je le dis dans un sens absolument pas péjoratif, là, un peu clownesque, et c'est amusant, c'est drôle. Est-ce que c'est ça la féminité? Je sais pas. Est-ce que les femmes qui ont des allures un peu, soit faibles ou un peu masculines, ou est-ce que ça les empêche d'être dans la féminité? Je sais pas. Tu vois, je te dirais que c'est pas en vieillissant que je trouve des réponses. En vieillissant, je trouve encore plus de questions. C'est pas rassurant. Et je vis tous les jours dans cette absence de sécurité. Je vis tous les jours dans cette absence de définition. Je vis dans l'indéfini, d'une certaine façon. Je vis dans ce questionnement-là. Toujours. Ça fait partie de ma vie. Je fais partie de... Et évidemment, pour moi, le langage pose cette question-là aussi. Hein. Toute la question de la langue inclusive, je pratique pas la langue inclusive parce que quand on pratique la langue inclusive, à mon sens, on gomme le féminin, justement, et on gomme, en gommant le féminin, on gomme la féminité. Et on la banalise, on l'aplatit. On l'aplatit et ça nous permet ou ça nous autorise ou ça... Il y a quelque chose de cet ordre-là. On ne se pose plus la question. Et on est dans du « un ». On est dans du... En psychanalyse, on dirait on est dans « l'un », avec un « u » majuscule. On est dans l'unicité. On est... Même si on fait, disons, auteur.e.s, on n'est pas dans l'inclusion, en tout cas. Je trouve que c'est pas dans l'inclusion. On est un peu dans le bilinguisme. Et comme tu sais, le Canada étant un pays bilingue, ce qui est très rigolo parce que le Canada est un pays bilingue anglophone. On parle pas français au Canada. Ou très peu. Et puis c'est quand même une langue, le français, c'est quand même marginalisé. Donc, ça me fait aussi penser à ça. La langue inclusive, ça me fait penser à quand on arrive à Montréal, c'est bienvenue à Montréal. Welcome to Montreal. Bon, ça, pour moi, c'est la langue inclusive. Autrement dit, on finit par plus savoir. Donc, autant je vieillis, autant je me pose la question. Et j'ai une fille qui a 30 ans, qui est à la fois très féminine et très pas féminine, qui est elle-même. Et je pense à Ilinka, qui est aussi elle-même et qui même encore aujourd'hui, d'une certaine façon, se pose. Je pense que toutes les deux se posent la question différemment de ce comment moi je me la pose, de ce comment toi tu te l'es posée. Mais ça reste quand même un enjeu, une réflexion. En tout cas, je pense qu'on peut pas en faire fi. Et là, je parle pas d'une féminité liée aux droits des femmes. Pour moi, c'est pas la même chose. Les femmes, malheureusement, n'ont pas les droits qu'elles devraient avoir. En France, maintenant, vous avez, c'est légalisé, là, l'IVG, alors que, donc, c'est un droit. Hein, c'est un droit. Quand
c'est entré dans la Constitution, oui. Il était légalisé, mais il n'était pas dans la Constitution, oui.
C'est ça. Là, il était légalisé, mais il n'était pas dans la Constitution. Mais aux États-Unis, vous savez qu'il y a des États où on n'a pas le droit de se faire, d'avoir un avortement, où on n'a pas le droit de divorcer si on est enceinte de son mari, et ça fait pas si longtemps que le viol conjugal a été considéré comme un viol. Avant, on trouvait ça presque normal. Enfin, le mari avait le droit d'abuser de sa femme sans qu'elle le veuille. Donc, ça, c'est des droits. Non, c'est des droits. On a le droit d'avoir le même salaire, on a le droit d'avoir un appartement, on a le droit d'avoir son compte en banque, on a le droit de voter. Ce sont des droits, mais c'est pas la féminité. Pour moi, c'est des questions qui sont différentes et qui se posent autrement. C'est pour ça que je distingue le côté social et politique du côté... on pourrait peut-être dire que je suis humaniste ou sexiste, peut-être, mais que pour moi, le sexe est une nature, mais c'est pas une nature. Je suis un peu dans cette... pas au niveau des droits, dans ces univers de réflexion. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans ce langage inclusif, la féminité? On parle pas de féminité, on parle du féminin. Féminin singulier, là. Féminin pluriel, enfin, féminin dans la langue, la nature et la fonction d'une certaine façon. Je pense qu'on confond nature et fonction. Bon, je sais qu'il y en a, j'ai une amie qui me dit que je crois à la nature. C'est pas que je crois à la nature au sens où c'est l'entité, mais je peux pas répondre à ces questions-là parce que je me les pose tous les jours. Bien, c'est sûr que j'ai un corps de femme, que j'ai un utérus, que j'ai eu des enfants. Est-ce que ça fait de moi une femme?
Tu as dit encore, mon écriture, ma recherche, ma réflexion s'organisent autour de ce lieu qui m'échappe, ce lieu qu'est la féminité, la mienne d'abord et celle du féminin. Qu'est-ce qu'une femme? Et qu'est-ce qu'une femme qui se pose ces questions, qui se demande si elle peut écrire? Au nom de qui? Au nom de quoi? Et que peut-elle écrire? Comment entrer dans la langue? D'où parle-t-elle? À partir de quel non-savoir? Quelles absences? Et pourquoi est-ce que je parle en utilisant le pronom « elle »? C'est de moi dont je vous entretiens. C'était toujours dans cette conférence « Le vertige du féminin ». Et je me suis demandé si de ne pas nommer, de ne pas se nommer, n'était pas donner parole à ces corps multiples, de se reformuler sans cesse pour conquérir une identité, mais une identité qui ne se désigne plus à partir d'une séparation, parce que sexe, tu vois, l'origine, l'étymologie du sexe, c'est la séparation. C'est comme sécateur, c'est comme tout ce qui sépare. Je me suis dit que peut-être le choix ou le fait de ne pas nommer ou pas encore, c'est peut-être en attente de pouvoir nommer sans se définir par une séparation, par une... Daniel, l'identité féminine, est-ce un des endroits d'où tu écris? Quels sont les autres endroits?
D'abord, je dirais que tu devrais écrire, Fabiola, tu serais pas mal meilleure que moi pour expliquer les choses. Parce que ce que tu viens de dire à propos de ta citation est nettement mieux que ce que j'ai dit moi-même. Alors, tu devrais l'écrire. Et je ne sais pas de quel autre lieu j'écris. Je ne sais pas de quel autre lieu j'écris, puisque je... comme j'ai dit tout à l'heure, plus tôt, comme je répète, j'écris à partir de ce que je filtre. Hein? J'écris à partir de... Et je peux pas écrire en dehors de ce filtre qui est « qui suis-je ?» Qui suis-je ? Qui suis-je dans ce corps ? Quel est ce corps pour moi ?
Mais c'est un corps ou c'est plusieurs corps ?
Tu me poses une question, je ne sais pas quoi répondre à ça parce que...
Quand j'ai lu ton dernier livre, je me suis dit que c'est comme s'il y a plusieurs corps qui parlent. Il y a plusieurs, peut-être pas corps, peut-être plusieurs...
Personnes.
Plusieurs voix qui parlent. Oui, il y a plusieurs personnes, voix. Mais ces voix, il pourrait être une seule personne.
Oui, bien ça, c'est ta lecture parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait... C'est-à-dire que je suis contente que tu me dises qu'il y a plusieurs voix dans ce texte-là, parce qu'effectivement, dans ma tête, dans tous les textes que j'ai écrits, dans tous les récits, enfin les récits, il y a toujours plusieurs voix, parce que, comme je te dis, j'écoute les gens, je les vois, je les regarde, et j'essaie de transcrire, évidemment, je transcris ce qui est filtré par ce que je suis. Je ne peux pas écrire autrement que filtré par ce que je suis, je ne peux pas écrire filtré par ce que t'es toi, parce que c'est moi qui écris, mais... Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs voix. C'est sûr qu'il y a plusieurs voix parce qu'on est déjà différente du début de l'entretien. On est déjà autre du début de l'entretien. Et là, je ne parle pas du stupidement, bêtement, du vieillissement. On n'est plus hier, on n'est pas encore demain. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'à l'intérieur même d'une seconde, on joue avec soi-même. On n'est pas fossilisé. On n'est pas stigmatisé d'être une chose. Peut-être qu'on peut l'être aussi. J'imagine qu'il y a des gens qui pour toutes sortes de raisons ne sont pas sensibles au fait qu'ils sont changeants. Mais on est changeant.
Mais tu sais, quand tu le dis maintenant, tu dis je, et quand tu as dit on joue, et je me suis dit je, tu peux dire je comme J-E-U-X. Tu vois?
Comme jeu.
Comme jeu.
Oui, mais on joue avec soi-même aussi. On se parle.
C'est comme un jeu au pluriel. Comme si jeu, il est pluriel et tu l'écrirais J-E-U-X. Oui.
Oui, mais je pourrais l'écrire J-E-S aussi.
Oui, comme tu l'as écrit dans Ici.
Comme je l'ai écrit dans Ici, parce qu'on est plusieurs jeux en même temps. Par exemple, avec moi, t'es pas pareil. Puis là, on n'est pas pareil en ce moment, que quand on est au café ou quand tu es avec quelqu'un d'autre, quand tu es avec une amie et que vous parlez d'une pièce de théâtre que vous venez de voir, tu es déjà différente. On est aussi c'est dans ce sens-là que je dis qu'on est mouvante. On est mouvante. Qu'est-ce que c'est qu'une identité?
On est mouvante et émouvante.
On est mouvante et émouvante. Oui, parce qu'on est ému par les autres.
Oui.
Il faut être touché. Je lisais un texte dernièrement, c'était une très, très, très belle image, être touchée, parce que c'était une femme, et c'est magnifique comme image, qui avait fait l'amour avec un garçon, avec un homme. Elle était jeune, elle avait 22 ans, donc elle dit « j'ai été touchée ». J'ai trouvé que l'image était spectaculaire. Bon, c'est sûr que c'était circonscrit dans un événement précis, mais qu'est-ce qui fait qu'on est avec quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on peut entretenir une relation avec quelqu'un? C'est qu'on est touché et on est ému par l'autre et que l'autre nous transforme. On est un peu loin de la féminité, tu penses, là? Tu vas me dire, on s'est un peu garé, mais je pense pas qu'on soit loin de la féminité. Non. Je pense juste à le fait d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Pour moi, c'est un choix, une décision. Une décision, un choix, appelons ça comme on veut, excessivement émouvante, parce que ça touche directement, la sexualité, le rapport à l'autre, que ce soit un rapport amoureux ou un rapport violent, il y a quand même eu un rapport à l'autre et un rapport à soi après. Donc, c'est excessivement émouvant. Enfin, moi, ça m'émeut dans ce sens-là. Je parle pas de « c'est émouvant, les mères sont tout le temps maternelles ». C'est pas du tout dans ce sens-là où je vais. C'est pas cette voie-là qui me préoccupe. C'est le fait d'être ému, d'être touché par... Quand on est enceinte, on est carrément, et là, c'est pas du tout une figure de style, on est carrément touché de l'intérieur par un autre corps. Bon, ça peut être aussi une autre avenue. On peut réfléchir à cette question-là. Moi, c'est pas nécessairement... La vie intérieure, pour moi, c'est tout ça mêlé. Hein? C'est tout ça mêlé. C'est être touché, c'est être touché de l'intérieur, c'est entendre les paroles des autres, des gens qui m'entourent, des gens que je vois sur la rue. J'adore marcher et puis m'imaginer ce qui se passe dans les maisons. Ça me touche. Bon, c'est sûr que j'imagine probablement des scénarios qui n'existent pas, mais c'est pas important. Le scénario que j'imagine est le seul réel pour moi.
Tu sais, quand tu m'as offert ce livre, il n'y a rien d'intact dans ma chair. C'était au tout début. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est la féminité. Mais c'est comme si, au moment où j'ai lu ce titre, je pense qu'il n'aurait pas pu être écrit, il n'aurait pas pu être donné par un homme.
Ouais, veux-tu que je te raconte l'anecdote de ce titre? C'est une cantate de Bach.
Ah,
c'est
tu
le
vois,
titre
je
d'une
savais
cantate
pas.
De Bach. Ben non, mais c'est une cantate de Bach.
C'est peut-être sa femme qui lui a donné son titre.
Oui, c'est Magdalena. C'est Magdalena qui lui a donné. Ben, tu sais comment je suis une amoureuse finie, comme on dit, de Bach. Alors, pour moi, c'était comme lui rendre hommage. Bon, malgré tout, je le connais pas, Bach. Je m'intéresse pas tant que ça à la biographie des gens, mais je me dis, quelqu'un qui écrit... Un titre, je me rappelle pas du titre en allemand, mais quelqu'un qui a écrit un titre comme ça, c'est précis, c'est
Bach,
pas rien.
Bach est une femme.
Bach est une femme, oui, c'est ça. Ou c'est Magdalena qui l'a écrit puis qui lui a donné. Mais c'est quand même pas rien. Il n'y a rien d'intact dans ma chair, je veux dire qu'on est carrément touché là.
Mais c'est vraiment.
Comme on dit, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir.
Oh,
Tu as enseigné, fait un travail littéraire dans des maisons d'édition ou des revues, tu as donné des conférences, tu as écrit des essais. Qu'est-ce que tu peux dire avec l'écriture que tu ne pouvais dire autrement?
Qu'est-ce que je peux dire avec l'écriture que je ne peux pas dire autrement? Je te dirais que je ne suis pas très bonne pour ce genre de questions. On a commencé l'entrevue quand je t'ai dit que pour moi les choses sont mêlées, sont entremêlées. Je ne sais pas très bien où commence quelque chose, où commence autre chose.
Mais il y a quand même une distinction entre le moment où tu écris pour une conférence, le moment où tu fais un essai ou le moment où tu corriges le travail de quelqu'un. Non?
Mais non, pas pour moi, c'est pareil. Je ne sais pas, pas pareil, bien sûr, c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand je corrige le manuscrit de quelqu'un, même quand je le fais encore maintenant, parce que dans les ateliers d'écriture, je travaille avec les participants.
Mais... Tu as l'impression d'écrire quand tu fais ça?
Oui, j'ai l'impression d'écrire avec eux. Quand je donne une conférence, j'ai toujours l'impression de parler de la même chose. De toujours, un peu comme un laboureur, je creuse tout le temps le même sillon. Et que à chaque fois que je creuse, ben, c'est un peu comme un explorateur, quelqu'un qui fait de l'archéologie. Il découvre une petite pièce, il en découvre une autre. Il se rend compte que finalement, là, il avait cru que les deux pièces on pouvait les coller, ça donnait l'objet, mais non, il en manque encore une. Bon, ben, c'est comme ça que je me sens. Donc, quand j'écris une communication, je livre quelque chose de moi, comme tu as vu la communication que j'ai donnée en Espagne, je parle quand même beaucoup de moi. Est-ce que je suis trop narcissique? Peut-être, j'ai pas l'impression, mais bon, j'ai pas l'impression que c'est ma caractéristique. Puis j'ai l'impression aussi souvent que quand j'écris au je dans les communications, que je voudrais que le je soit un elle ou un nous.
Tu pars de toi, je pense pas que c'est narcissique, tu pars de toi, mais tu pars, c'est juste un point de départ. C'est absolument légitime, je pense, de partir de soi.
Ouais.
On est le plus proche. Tu parles plus proche, peut-être, non?
Oui, puis je veux que. Ce que je veux, c'est que. Mon plus proche t'émeuve, te touche, et que tu me renvoies ton plus proche. Et quand tu me retournes ton plus proche, eh bien, moi, j'y réponds. Et là, on parle, tu comprends? On dit des choses. On se dit et on s'entend. Et on est ensemble. Et ça, pour moi, c'est important. Quand je fais les conférences, si je touche une personne, j'avais la même attitude quand j'enseignais. Si j'arrivais dans un cours, si j'arrivais à toucher un étudiant ou une étudiante, quand je fais une communication, quand j'arrive à toucher un auditeur, ben j'ai gagné mon pari avec moi-même. C'est ce que je veux. Je veux comme réveiller en l'autre quelque chose. Bon, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, peut-être que ce que je réveille, ce sont des monstres, mais après tout, on a tous des monstres. Mais si on a des monstres, on a aussi des fées. Alors peut-être qu'on peut réveiller une fée clochette, une fée marraine. Mais c'est ce que je veux. Quand j'écris un livre et que quelqu'un me dit « j'ai lu votre livre, ça m'a touchée », ben ça valait la peine que je l'écrive. J'aime quand on me dit ces choses-là, parce que j'ai l'impression d'avoir touché quelqu'un, d'avoir ému quelqu'un, d'avoir ramené quelqu'un à ce qu'il est. Et en le ramenant à ce qu'il est, et ça revient un peu à ta question que tu as posée au début de cette entrevue sur la responsabilité, c'est la responsabilité de l'écrivain, enfin de l'artiste. Et en arrivant à émouvoir quelqu'un, je suis pas dans l'idée d'on va changer le monde. C'est trop gros pour moi, cette idée-là. Ma responsabilité, Fabiola, c'est de te toucher toi, de toucher éventuellement les auditeurs et qu'ils se disent « mais qui je suis, moi ?» Ça, c'est ma responsabilité. Et comment mon écriture, si elle peut donner envie de se connaître, si mon écriture peut donner envie
de se reconnaître.
Mais de se connaître et de reconnaître l'autre aussi. C'est essentiel. Il peut pas y avoir de parole si personne t'écoute, tu peux pas parler. Si personne t'entend, à qui tu vas parler? À personne. Au vide. Parler au vide, ça rend fou. On a besoin de savoir que quelqu'un, quelque part, nous entend et est prêt à nous entendre. Évidemment, c'est pas du tout d'actualité. C'est pas du tout dans l'ego portrait. Là. C'est pas du tout dans l'ego portrait où ce qu'on a à dire est tellement essentiel que j'ai l'impression qu'on vit tout le monde les mêmes vies finalement. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus spectaculaires, mais est-ce qu'elles sont plus extraordinaires? Pas sûr. Elles sont plus spectaculaires. Mais profondément, quand on est avec soi-même, là, quand on se regarde dans la glace ou quand on se couche ou quand on se brosse les dents, on est tout seul avec soi-même.
On dit qu'on écrit à partir d'un manque. Est-ce que ce manque-là, le manque de l'autre, peut-être, de cette écoute, de l'autre qui manque?
Dans mon cas, j'écris pour conquérir la langue. c'est tout le temps un peu cette question-là, c'est que j'ai tellement l'impression de ne pas avoir de mots que j'essaie d'écrire pour trouver des mots. J'essaie d'écrire pour arriver à dire, arriver à faire ressentir quelque chose. Oh, peut-être, c'est sûr que je pourrais dire toutes sortes de choses par rapport à ma vie, par rapport à mon enfance, par rapport à ce qui m'a manqué, par rapport à ce que j'ai eu. Parce qu'avoir en trop, c'est comme passé, hein. C'est pareil. Donc, c'est sûr que je pourrais toujours, mais le manque dans ma vie, le manque, c'est vraiment le langage. De pas avoir de mots. De pas avoir les mots qui disent au plus près et au plus juste.
Tu envisages d'écrire à partir d'un travail pictural, maintenant? C'était un projet. Écrire autour du travail du peintre Sergio Zanco, qui a été aussi un des invités des Formes Utiles. Comment tu vois ce travail? Comme un exercice d'écriture ou c'est un travail littéraire au même titre qu'un récit qui part d'un vécu ou d'une fiction? Mais bon, tel que tu l'as répondu jusqu'à maintenant, je vois que tout, pour toi, tout est... tu es dans l'écriture.
Ben, je fais ça avec Lisette Tardy. Hein, j'ai publié un livre avec elle...
L'innommé,
c'est... Ouais, j'ai publié un livre avec Lisette Tardif qui était sur l'innommé. Et là, j'ai envie de travailler avec Sergio parce que j'aime son travail, mais j'ai pas envie de faire une écriture d'accompagnement. Je vais pas faire de l'analyse de ses tableaux. Je vais pas non plus faire des légendes de ses tableaux. Je regarde ce que j'avais vu. Là où ça m'amène, c'est surtout dans ce sens-là que là où ça m'amène quand je regarde ce qu'il fait, un peu comme quand j'ai écrit « Il n'y a rien d'intact dans ma chair ». J'écrivais ce recueil et j'écoutais en boucle cette cantate de Bach. Et c'est comme si je faisais mienne, la musique ou la peinture. C'est pas de l'accompagnement. C'est un accompagnement intérieur.
Je vais lire 4 extraits de celle qui ne donne pas son nom. Seul avec toi, tu ne sais plus avec qui tu es. D'ailleurs, tu ne te reconnais pas dans le miroir. Tu es ravagé,
que ravagée. Au point que tu ne peux plus te regarder. Que tu ne peux pas non plus regarder les autres autrement que par en dessous. Tu es en mille morceaux, fragmenté, privé de toi-même, déterminé par des lois et des devoirs qui n'en finissent plus de s'accumuler, obéissant devant une routine que tu n'as pas choisie, mais que tu revendiques et exiges cassante. Tu ne sais pas, ne t'y habitues pas, au poignard dans le ventre. Terriblement étrangère à toi-même, tu ne cherches même plus à maîtriser ta parole. Tu t'aperçois que tu es sans identité, ni boniche, ni esclave, asservi à quelque chose de plus fort que toi, qui t'illumine la nuit, t'écrase le jour. Fugitive. Cet état où tu te désolidifies, te décomposes et t'évapores. Tu ne sais quand dire rien. Tu ne sais quand dire, ni si tu arrives à y survivre. Tu n'as pas une identité, mais mille, aussi inqualifiables et inavouables les unes que les autres. Tu ne peux dire si cela t'effraie ou te rassure, ou si tu devrais plutôt en pleurer, et pleurer chacune d'elles. Il n'y a personne à côté de toi, que personne, et cela ne t'apporte ni quiétude, ni sérénité. Il y a tant de choses que tu détestes. Tu aimerais avoir acquis autre chose dans cette langue, puisque dans cette langue maternelle, il t'en vient une autre, naturelle, habitable, en retrait, barrée par ton sexe de femelle. Une langue plus ancienne, archaïque, une langue marabout qui te poursuit dans une ville étrangère. Cette langue, où tu ne vis pas tranquille, t'oblige à apprendre rapidement la lenteur. Tu ne le souhaites pas. Tu ressasses les mots, les répètes, toi qui ne supportes pas d'être corrigé. Des mots, il y en a trop, et tu ne possèdes pas l'orthographe. Tu la refuses, suffisante, comme pour arracher l'écorce au boulot. Tu ne veux pas. Quand tu considères ta vie, tu additionnes inlassablement les corps des hommes que tu as connus, et sans jamais te rappeler à eux, réalise que tu n'en as oublié aucun, en dépit de ce qu'ils t'ont fait à toi. Ou pas. Dis, ou non. De ce que tu as escompté et qui n'est jamais venu. Chacun d'eux t'a laissé quelque chose qu'aujourd'hui tu observes, désabusé ou écœuré. Comme si ce n'était pas toi. Comme si ce n'était pas eux. Même si aujourd'hui ils existent sans signe particulier, sans singularité. Pluriel, absent de ta vie actuelle, présent malgré toi. Parfois tu rêves à eux sans les distinguer les uns des autres. Tu te réveilles en hurlant parce qu'ils t'ont tué, tous en même temps, indifférenciés. Tu ne te rappelles ni le sexe, ni les mains, ni la bouche. Ils viennent vers toi en meute, penses-tu en sueur dans ton lit dans une chambre qui n'est pas la tienne. Mon jardin m'enseigne l'amour. Le tien participe d'un ordre réglé, mesuré, où les fleurs pourraient être artificielles. Les miennes sont mon pays. Je te parle de la lâcheté, de l'impéritie ou si tu préfères de l'inculture devant laquelle nous nous sommes résignés, par défaut, emprisonnés dans un mur de reddition, d'ignominie. Tu en es fier. J'en ai honte. J'ai honte pour deux, pour mille, pour toutes les femmes sans nom. Je n'ai pas d'autre mot. L'aliénation. Mais cette aliénation est un massacre. Un encerclement auquel nous sommes acculés, en guerre les unes contre les autres. L'une contre l'autre. Tu ris. Tu t'en moques et cette abdication me tue. Tu te réconfortes des mots de ton père. Je cherche ceux de ma mère. Thank you.
Publié plusieurs recueils de poèmes en collaboration avec, je ne sais pas, avec des hommes, je pense pas, mais avec des femmes, comme avec Mireille Farguet-Caruso ou Luce Guilbeault ou maintenant avec Louise Marois. Pourquoi écrire à deux? Et comment écrit-on à deux?
Chaque livre a son histoire propre, parce que je n'ai pas écrit à deux de la même façon que j'ai écrit chacun des livres. Par exemple, avec Luce Guilbeault, qui est le premier livre que j'ai écrit avec elle, on a vraiment travaillé chacun notre texte, et bon, après, on a mis nos textes ensemble. Avec Mireille Farguet, ça s'est passé autrement. Mireille, on s'est envoyé un texte. On s'est envoyé un texte, et le texte... était la réponse. En fait, c'est comme si vraiment c'était une réponse, mais c'était l'ensemble. Je pense que j'avais envoyé tous les textes à Mireille, et puis Mireille avait répondu à cet ensemble de textes. Avec Louise, on avait décidé de prendre des vacances toutes les deux, d'aller au bord du fleuve, parce que le fleuve est très, très important au Québec, le fleuve Saint-Laurent. Et je lui avais dit, ah, on va, tous les soirs, quand on va se coucher, chacune notre soir, on va envoyer... une phrase d'un livre qu'on est en train de lire à l'autre, par texto. On dormait dans chacune dans nos chambres, bon. Et puis, premier soir, je lui envoyais une phrase. Et le lendemain, on devait écrire un texte à partir de cette phrase. Et à l'heure de l'apéritif, on devait lire le texte qu'on avait écrit dans la journée. Et on a fait ça pendant plus de 2 semaines. Et quand on est rentré chacune chez soi... Les premiers jours, enfin les 2 premiers jours où on était séparés, hein, on était chacune chez soi, on s'ennuyait énormément de l'autre. Et on a continué à faire ça. Et après, on a dit, ben écoute, c'est devenu un livre, cette affaire-là. Et bon, Louise est une artiste multidisciplinaire, bon, extraordinaire, une grande, grande artiste, et elle faisait des photos en même temps. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais
c'est comme
à chaque
ça,
fois...
C'est, je n'aime pas violet, et il va paraître au mois d'avril, au Norrois.
Tout le monde se pose la question. C'est parce que normalement, le livre devait s'appeler Violet presque noir, parce que le violet, parfois, il devient presque noir. Et puis... je ne sais pas pour quelle option, je ne me rappelle pas du détail de la chose, mais en tout cas, je sais qu'il y avait un livre qui était publié au Norrois qui s'appelait « Presque noir ». Je crois que c'est le livre de Louise Dupré, mais je ne suis pas certaine. Puis là, on s'est dit, mais là, encore du noir. Puis il y avait d'autres livres qui étaient publiés, noir, noir ténèbres. En tout cas, il y a plein de noirs là-dedans. Je ne me rappelle plus si c'est l'éditrice ou si c'est Louise qui a dit, je pense que c'est l'éditrice qui a dit, ben ça pourrait être violet. Alors là, moi, je me suis immédiatement, « Ah non, je n'aime pas violet ». Puis Louise, elle a dit, ben c'est ça le titre du livre. Et le livre, il est tout violet. Les caractères sont violets, la tranche est violet. On dirait un petit cahier. C'est un magnifique livre. C'est un magnifique livre. On dirait un petit cahier d'écriture. Et ça tombe bien parce que, je l'ai dit, j'écris tout le temps dans les cahiers. Et un des cadeaux que je fais régulièrement à Louise, ce sont des cahiers. Je lui achète tout le temps des petits cahiers. Et puis là, je lui dis, allez, écris, martyr, dessine, martyr. Alors, je lui donne ces petits cahiers. Donc, c'est comme si notre livre était le symptôme de cet échange que l'on a de petits cahiers. Louise est une amie que je connais depuis très, très longtemps. Et on s'entend et on s'écoute. Extrait de « Je n'aime pas violet ». Il y a des choses plus faciles à dévoiler que d'autres et par conséquent, plus faciles à taire. Des choses dont elle perd volontiers le souvenir, d'autres qui lui restent dans la poitrine, vont jusqu'au cœur, se déplacent ou se répandent et créent un jardin dans ses pommes, un jardin. Il va sans dire que cela dépend des êtres, de leur solitude ou de leur entourage, des mots qu'ils ont appris et retiennent, qu'ils rendent tantôt avec délicatesse, tantôt avec grossièreté, surtout si celle-ci est liée à la peur acide et âcre. Elle souhaiterait dire quelque chose de simple, qui vient tout bonnement, comme un serment de cœur, qui ne trouve nulle part où aller dans le corps, comme on se perd en l'autre. Mieux vaut utiliser le neutre du masculin et laisser la marque du féminin. Elle qui n'est ni l'un ni l'autre, qui charrie ce petit rien sans lumière ou d'une lumière ordinaire qui se profile sous le granit et les lauges, qui construit un lieu où la vie aurait eu la particularité d'être. Elle se rappelle avoir eu les mots de tous les jours, ceux d'une langue soutenue, capable de tumulte et de frissons, des paroles surprenantes de vérité. Mais elle reste là, avec ses petites lettres, pattes d'oiseau sur le sable mouillé.
Daniel, quelles sont pour toi les formes utiles?
Les formes utiles, je me suis posé la question, bon, je sais que c'est le titre du recueil de Martine Audet, poète québécoise, mais qu'est-ce que c'est une forme utile? Je ne sais pas, tricoter, faire de la poésie? Je sais, j'ai réfléchi, je ne sais pas combien de temps cette question-là, des formes utiles. Évidemment, là, je vais parler comme une ancienne prof, j'ai pensé les formes utiles littéraires. Non, c'est pas... non. Donc, je ne sais pas quoi répondre à ça. Faudrait que tu me dises ce que
c'est. Un ancien invité,
forme...
il m'a dit que pour lui, ça serait les formes neutres. Celles qui te laissent les transformer. Pas celles qui sont déjà toutes...
Ouais. Une forme utile. D'ailleurs, qu'est-ce qui est utile dans la vie? Nécessaire, mais utile.
Daniel. On va clore cet entretien par la dernière page de ton dernier récit, celle qui ne donne pas son nom.
Qu'éprouves-tu vraiment, toi qui n'arrives pas à faire une phrase complète? Toi qui te sens entamé par l'autre? Comment survis-tu aux tristesses confuses, à ton aveuglement, aux mots poubelles que tu prononces quand tu parles d'amour? Devant toi, je me retrouve décontenancé. Peut-être reconnais-je mes propres ténèbres, mon isolement. Tu sauras si bien me tuer, tu n'aurais aucun mal. Je pense que cela te serait facile, puisque tu sais refuser, sans regret, ce qui vient à toi dans la douceur des roses et des baisers. Tu gardes ton cœur sous verre. Ne l'approche plus de crainte qu'il ne se réveille et pleure dans une obscurité palpable que tu as créée, submergée par un chagrin qui se déballe devant toi, quelque chose d'une enfance et d'un amour perdu. Oui, un intolérable chagrin d'enfant qui n'a pas de nom, qui existe à peine, qui se lamente en silence dans un lit de fée. Comment nommer? Avec quel mot que tu n'as pas, n'as jamais eu, ni n'auras jamais? Comment évoquer cet intraduisible de ton cœur cousu du fil de l'impuissance? Devant toi, je me sens ta sœur, ni la fille de ton père, ni celle de ta mère. Une sœur qui vient des tremblements intérieurs, une sœur qui vient d'un monde sans dessus-dessous, surgit d'une explosion qui n'a pas encore de nom, d'un pays qui n'a ni route, ni maison, ni terre, ni eau. Un pays qui se définit par rien. Méconnaissable, tu demeures vive entre les embruns et le délicieux de l'air. Tu hésites entre le passage des faces cachées à la lumière. L'effondrement du corps reste un mystère lisse. Tu te demandes comment dépendre l'eau à celui qui n'y est jamais entré. Ou la douceur de bandes de sable roulées par la mer. Tu te demandes si cela est nécessaire, toi, qui n'aurais jamais voulu sortir du rang, mère avant d'être femme. Tu as survécu au chemin de grandes déceptions. Tu t'efforces de te reprendre, en toi enfui, la peau brûlée, œuvre du cœur brisé. Le jour ne se lèvera pas, ni ne se couchera. Un autre jour sans jour. Une heure s'ajoute, penses-tu, dans l'éclatement du cerveau, le hasard objectif. Et seulement le hasard objectif. Il t'obligera à parler, pour une fois, tout dire jusqu'à la coalescence, jusqu'à la mer, jusqu'aux figures de l'index et du pouce, jusqu'aux racines entissées de la verticalité et du sens commun. Jouer à parler et rire, et encore parler, puis rire. Normalement, les dents devant, l'œil mordu par l'image quand l'avenir empêche le présent. Il sera possible d'en revenir en dépit des matines et des vêpres. Tu m'échappes. Les mots dans ta bouche s'échappent aussi et mènent leur propre danse. À leur tour, ils t'échapperont. J'observe le monde avec mon ventre et je m'y sens transparente.
Merci, Daniel.
Merci à toi, Fabiola.